Monsieur Strat, oui.
Oui, alors je vais vous surprendre, mais je pense que vous avez fait une gymnastique articulaire au niveau des finances de la commune qui, bon, on peut avoir le prisme qu'on veut, hein. J'étais un des premiers à la décrier au départ, donc je le reconnais. L'important, c'est d'avoir réussi à maintenir les finances de la ville avec toutes les problématiques qui vous sont tombées dessus, il faut le reconnaître, que ce soit de l'État, que ce soit de la MEL et autres. On sait très bien que effectivement le budget était fortement, fortement contracté, hein, du fait que ben, quand on a moins de ressources, ben, hein, il faut faire avec ce qu'on a. C'était pas simple, je reconnais. Nous sommes passés aussi par là et on sait qu'un budget, ça se fait pas en claquant des doigts et qu'il y a beaucoup de sacrifices et de concessions à faire de part et d'autre, parce que chaque élu a ses propres demandes et ses propres besoins en fonction de la population qui le sollicite et les obligations aussi de la municipalité. Je ne ferai pas donc d'exposé sur les chiffres, parce que je pense que chacun a le document devant lui et chacun a enfin, son interprétation et son analyse. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est que faut pas oublier que tous les élus que nous sommes là au service de la population et des Lissois, et que notre objectif est de faire en sorte qu'ils aient, eux, les conditions de bien vivre, voire de mieux vivre à L'Isle-et-Lanois. Donc je ne dirais pas que le personnel est trop nombreux, je dirais que le personnel est de qualité, que le service rendu à la population est bienveillant, et je sais de quoi je parle, parce que si on compare à des villes même bien plus importantes, on n'a pas à rougir d'être à L'Isle-et-Lanois. Donc il faut savoir sortir de ces murs pour savoir comparer un peu ce qu'il existe. Je dirais aussi que les institutions, et vous avez beaucoup de soucis à vous faire pour le futur, hein, parce que les dotations sont de moins en moins nombreuses. Les services qui accompagnent les associations, qu'elles soient sportives ou culturelles, sont moindres. Que les finances départementales, régionales et de l'État sont plus non plus qu'elles étaient. Donc c'est toujours facile de dire on a plus et on fait plus. C'est toujours plus compliqué de devoir restreindre. Alors je dirais simplement, je mettrai un bémol. Aujourd'hui, et ma collègue Aline André vous en a parlé tout à l'heure, il faut faire attention au social. J'ai entendu ce que vous aviez dit. Effectivement, il y a des choses qui existent déjà, auxquelles vous ne pouvez pas vous soustraire, mais vous avez le libre arbitre aussi de pouvoir y mettre des choses supplémentaires si d'aventure vous estimiez que la population en a besoin. Les services de proximité liés aux différentes décisions, qu'elles soient gouvernementales ou autre, hein. On sait que la proximité, ça devient un gros problème. On parle de la couverture médicale, il ne faut pas se leurrer non plus, à L'Isle-et-Lanois comme ailleurs, c'est difficile de trouver un médecin qui prenne une famille supplémentaire. Tout le monde est chargé, donc ce soit pour les médecins généralistes, je parle, hein. De même, pour tout ce qui est alimentaire, on a quand même encore beaucoup de personnes qui souffrent de malnutrition et qui ne viennent pas se renseigner. Question de fierté mal placée, certes, mais toujours la peur que ça se sache. Je dirais aussi que pour siéger à l'OMS et siéger aussi à la commission sport, même si j'ai pas pu, je m'en excuse, participer à la dernière, on voit bien qu'au niveau des coupons sport, une des réponses, je dis bien une des réponses à laquelle effectivement on a de moins en moins de demandes, c'est parce que les gens qui ont deux, voire trois enfants n'ont pas toujours la capacité de financer pour les trois. Et ils ne demandent pas de coupons sport tout simplement pour ne pas avoir à choisir lequel de leurs enfants ils pourront inscrire dans une activité sportive. Donc ça aussi, c'est un problème. Il faut donc aller au-devant des personnes pour savoir comment ils vivent. Alors je sais que ce n'est pas simple, ce n'est pas forcément le rôle de la commune non plus, mais il y a différents leviers à travers les écoles, à travers le relationnel, pour ne pas laisser un enfant de côté, frustré, meurtri. Et on sait très bien quelles conséquences ça peut avoir pour lui pour la suite. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire, ce n'était pas simplement d'ordre économique, mais il faut que l'économie, elle revienne au service de l'habitant et non pas l'habitant au service de l'économie.
De compléter pour deux choses, sur trois choses. La première, c'est que la remarque que vous aviez faite l'année dernière concernant le travail avec le CCAS, on l'a entendu et on a bien demandé aussi à l'UTPAS de prendre en compte les situations et de nous les transmettre le plus rapidement possible, d'où une augmentation des aides accordées. J'ai oublié de préciser une chose à Madame André, et grâce à la question de Monsieur Ostra, je peux le préciser, c'est qu'on a aussi eu, et on a accordé, des aides supplémentaires au niveau des LSH. Alors, ça, on l'a aussi, il y a aussi une demande un peu plus importante. Donc, on a octroyé ces aides qui sont là facultatives, et on a donné de l'argent afin que les enfants puissent s'inscrire au centre aéré. Au niveau des dotations, bien évidemment qu'on ne peut être que d'accord. Et j'ai apprécié votre remarque sur des coupes insidieuses en parlant du monde du sport. Je pense que vous, comme Agnès, vous pouvez penser à la même chose au niveau des conseillers techniques, où on sait très bien comment ça va se terminer, où ce sont les fédérations qui vont être responsables. Mais on sait très bien qu'au final, ce seront aux communes et aux associations elles-mêmes en bas de l'échelle de se débrouiller. Oui, ça fait partie des sources d'inquiétude. D'accord, c'est une mesure insidieuse qui n'est pas connue des citoyens, mais ça peut, chez nous, chiffrer à plusieurs dizaines de milliers d'euros là-dessus, si on veut soutenir nos clubs, les différents clubs que nous avons, sans en citer un particulièrement. Ensuite, on a évidemment les autres sources d'inquiétude, comme je l'ai dit tout à l'heure, et vous l'avez justement remarqué, au niveau du département et au niveau de la MEL, par rapport à leurs ressources au niveau de la TVA, oui, c'est une source d'inquiétude. Et au niveau de l'État, et là, ce n'est même pas une question, comme vous parlez, après, au-delà du financier, mais je pense que ce soir, si je devais prendre si je devais résumer la question sur le rapport de notation budgétaire, on est plus sur des débats de forme que sur des débats de fond, parce que je pense que sur le fond, pour trouver une critique, c'est sur des débats de forme, sur de l'écriture d'emprunt, qui au final n'est pas débloqué. Donc sur le fond, je pense qu'on a la bonne politique et qu'on a la bonne stratégie. Mais sur le fond, au niveau national, oui, il y a aujourd'hui une grande source d'inquiétude de l'ensemble, je pense des élus.
Bien sûr.
Au niveau de la conduite de l'État, où on n'a vraiment pas de soutien. Et où les gens aujourd'hui sont à cran. Et où il se réfugie auprès du dernier interlocuteur qui existe, c'est l'élu municipal. Et où il faut essayer de combler toutes les carences de la société, les carences de l'État. Il y a une carence qui est aussi en train d'émerger, non pas... le débat des retraites a monté ça en première colonne, on va dire, ou à la une, mais au niveau de l'hôpital. Les mesures de l'hôpital, ça concerne tout notre bassin de vie. C'est assez inquiétant de voir la situation de personnes qui refusent de se soigner aujourd'hui et qui ne vont plus à l'hôpital, même aux urgences. Je vais en parler sous le contrôle de Conrad, mais il y a certaines familles, nous, dans notre commune, on n'est pas forcément touchés par ça, mais par deux communes aux alentours, où il faut réapprendre aux gens à se brosser les dents, et ce sont les communes qui sont sollicité par l'éducation nationale pour mettre en place ces plans de prévention. C'est des plans de prévention, des plans d'éducation qui datent des années 40, des années 50. Voilà. Il y a des choses... Aujourd'hui, on revient un petit peu... Voilà. On est en train de stagner, voire de régresser sur ces questions. Et ce sont des questions que les futurs élus de toute la France devront prendre. Et financièrement, ça aura un coût, mais il faudra faire des choix.
Mais dans les années 50, on se lavait les dents. Mais, mais bon, il y a aussi un gros souci qui va arriver, c'est le désert numérique. Des personnes à qui on dit « allez chercher vos papiers sur Internet » et qui n'ont pas la faculté ou la possibilité financière d'aller sur Internet. Donc là, il va falloir aussi faire un effort et mettre des choses en place au niveau de la commune. Comme d'habitude, au niveau de la commune. Oui, Monsieur Ostrat.
La seconde fois ce soir, je vais aller dans votre sens. Il y a de la difficulté, l'informatique au service de la population, mais la population soumise à l'informatique, ce n'est pas la solution.
Non. Mais cet après-midi, je suis allé au CCAS et j'ai vu une étudiante, une jeune d'origine africaine, qui était là, à qui on a prêté un ordinateur parce qu'elle avait un devoir à faire et que chez elle, elle n'en sortait pas. Donc je pense que là, quand on fait ce genre d'action au CCAS, j'étais très content. Et ça, ça va devenir indispensable.
La réponse s'adressait pas tellement dans ce sens-là, monsieur le maire, parce que je pense aux personnes âgées, aux personnes qui n'ont plus la dextérité de tapoter sur un clavier, aux personnes qui sont atteintes de déficiences, pas forcément des déficiences neurologiques, mais des contraintes qui ne leur permettent pas effectivement de tapoter encore une fois sur un clavier et de lire correctement et d'être à l'aise avec toutes les démarches qu'on leur demande. Parce que rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y avait pas encore l'ordinateur. Et malgré tout, quand il fallait remplir des papiers, les gens allaient soit à la perception, ils demandaient des informations. Il y avait des gens pour leur répondre. Aujourd'hui, vous n'avez plus. Je vais revenir sur ce que monsieur Prokopovitch a dit tout à l'heure. C'est que quelque part, les gens qui n'ont déjà pas suffisamment d'argent, on les soumet à une contrainte supplémentaire. Et s'ils ne s'en sortent pas, ils doivent appeler. Mais avant, les appels étaient gratuits. Aujourd'hui, ils doivent en plus payer ces appels. S'ils ont déjà des abonnements contraints, avec l'impossibilité d'appeler les 08 et tout ce qui s'ensuit, ils ne peuvent pas. Et ils se retrouvent comment ? Tout seuls. Je vais rajouter une autre problématique. On a vilipendé pendant un petit moment en disant « Mais restez pas avec vos parents, c'est pas grave, ils s'en sortiront. Suivez votre carrière, allez dans les pays étrangers. » Et aujourd'hui, nos vieux, on en fait quoi ? Le nombre de personnes âgées qui n'ont plus leurs enfants à côté d'eux et qui n'osent pas se plaindre à leurs enfants pour ne pas mettre une contrainte supplémentaire liée à des déplacements. Tout ça, c'est la société qui, depuis de nombreuses années, l'a mis en place. Et aujourd'hui, on en commence à en arriver au bout du bout. C'est qu'est-ce qu'on fait ?
La ville va faire.
Je vais parler pour la dernière fois parce que j'ai déjà parlé énormément ce soir. Mais au-delà des considérations internationales, il y a aussi une mesure insidieuse que j'ai oublié d'évoquer, c'est tout de même la trésorerie. Où la trésorerie est en sursis, je rappelle bien qu'elle est bien en sursis, hein, et on a gagné quelques mois, voire un an peut-être, mais là pour les personnes plus âgées, ou les personnes qui ne sont pas acculturées au matériel informatique et aux déclarations, et ben leur seul relais aujourd'hui, c'est la perception rue Jules Guesde. Et où va-t-elle partir ? On a entendu Denain, normalement ça ne devrait plus être Denain par rapport à
Hasbrouck.
Voilà, après on a entendu Hasbrouck. Hier, on a entendu Hasbrouck. Donc c'est plus dans le nord du département plutôt que le sud. Mais ça oui, qu'est-ce qui va devoir se passer ? Ce seront des agents qui seront sans doute là pour conseiller les Lissois qui seront un peu plus démunis face à
sur les budgets de la mairie.
Et sur les budgets de la ville, avec une compensation de la part de l'État qui est évalué dans le budget à zéro.
Bien. Est-ce qu'on peut considérer que... Est-ce qu'il y a encore des questions à poser ? Est-ce qu'on peut considérer que le débat a eu lieu ? Oui, monsieur Strat ?
J'aime bien parler ce soir. Donc,
j'ai
vu, en fait, dans le PPI, hein, quelque chose qui m'avait un peu interpellé. Bon, vous savez que j'ai eu la chance de présider un peu les affaires de la piscine des Trois-Villes. Et je vois effectivement que rien n'est planifié pour dans le PPI pour si d'aventure il y a des frais, des travaux à faire. Ou on sait très bien qu'une piscine, de toute façon, c'est pas quelque chose qui rapporte de l'argent. Hein. Je vais citer les mots de Monsieur Vercamer à l'époque. C'est quand même quelque chose d'utilité publique, parce que je rappelle quand même que tous les enfants sont censés savoir nager pour en entrer en sixième et que la ville de Lisle-les-Lanois peut être fière d'avoir préservé cet outil. Même si c'est co-géré avec la ville de M et la ville de Roubaix, ça se passe. Enfin, je pense que c'est même plus la ville de Roubaix. Si c'est encore à 10%. Donc l'important, c'est que la cohabitation se passe bien et que tout le monde œuvre dans l'intérêt de cette piscine. Par contre, je voudrais, alors, pour toutes les personnes qui seront aux affaires pour le futur, c'est qu'on n'oublie pas que cette piscine, elle fait partie aussi de l'Isle-les-Lanois et qu'on en parle un peu plus. On n'en parle pas suffisamment. Si, on en parle à travers les manifestations, mais dans les différentes commissions, dans les différentes instances, donc que ce soit l'OMS ou n'importe quoi, parce que l'OMS a recadré un peu ça, on parle de la piscine des Trois-Villes et des activités qu'il y a, mais on ne parle pas de ne serait-ce que de la valorisation pour une commune d'avoir une piscine. C'est important, c'est un outil que on devrait aujourd'hui s'en créer une, on ne pourrait pas. Hein, donc ça, je pense qu'il faut aussi valoriser ça. Et c'est pour ça que je m'inquiétais qu'il n'y avait pas de somme positionné dans le PPI, surtout que vous aviez dit que c'est du prévisionnel. Donc le prévisionnel, on peut mettre quand même de l'argent, et même si on ne l'utilise pas, au moins elle est... Et là, c'est un outil comme ça, qui est quand même assez fragile, hein. La piscine, elle n'est pas remontée comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts. Mais je suis étonné un peu de voir le dernier. C'est une subvention qui était sur l'investissement piscine de 12 550 euros en prévisionnel 2018. Et je ne vois rien en 2019, 2020, 2021.
Allô ? C'est bon. Allô, pardon.
Allô, à la piscine. Ouais.
Tout le monde m'entend. Non, par rapport à la piscine, c'est que donc il y aura des travaux importants de structure qui vont être faits lors des vacances de février. Mais depuis de nombreuses années, comme il y a eu un plan d'investissement important qui a été fait auparavant, cette subvention de piscine ne servait qu'à accumuler des excédents d'investissement. Donc le conseil syndical a pris la décision de ne pas solliciter les communes à abonder un budget qui servirait à rien. Voilà. Par contre, au cas où, les villes seront toujours contributives au financement de l'investissement quand il y aura besoin. Mais ça ne sert à rien de demander de l'argent là où il n'y en a pas besoin. Voilà.
Je suis heureux de votre réponse parce que c'est là où je voulais vous y amener. Quand il faut parler de la piscine, il faut aussi dire que la gestion communale et intercommunale de cette piscine permet effectivement un moindre coût, un moindre investissement des différentes communes, justement, et c'était le but des travaux effectués. Et j'ai été informé par Francis Ménager à plusieurs reprises, notamment sur la consommation des fluides, parce qu'on n'avait pas trop de retours. Et il s'avère qu'effectivement, les travaux ont payé et que l'objectif d'un CIVU, c'est de ne pas garder de trésorerie, mais de bien de restituer à chaque commune l'argent qu'ils n'utilisent pas.
L'emprunt de la piscine est à 0 euro aujourd'hui. Donc on n'est plus garant d'un emprunt vu que à zéro.